Bien, alors, culture, bon, la culture, elle s'oppose, il me semble, à la nature, hein. On ne peut pas définir une chose comme ça dans l'ensemble. Vous pouvez me dire, bon, ben, culture et tradition, ici, la bouvine, la pétanque, le pastis, etc. Bon, on peut toujours parler de la culture en l'assimilant aux traditions. Je pense qu'il faut être plus rigoureux, hein, et essayer au départ de définir la culture par ce qu'elle n'est pas, hein, la nature. Elle n'est pas la nature. La culture, c'est ce qui, dans l'homme et au sein des groupes humains, s'oppose à la nature. Alors, qu'est-ce qu'elle veut, la nature? Eh bien, la nature, elle veut simplement l'assouvissement de nos pulsions, hein, de nos instincts les plus élémentaires, si vous voulez, hein. Et la culture va s'opposer justement au désir que nous avons de satisfaire immédiatement nos instincts ou nos pulsions. La nature, elle a ses lois, hein. La nature, elle n'est jamais répressive. Elle ignore l'exclusivité et le choix. Par exemple, dans le cas d'une relation amoureuse, eh bien, la nature, justement, nous pousse au nomadisme, hein. Nous allons là où notre désir nous pousse, hein, et finalement, la nature ne nous rend pas forcément fidèles et monogames, vous voyez? Alors, si vous voulez avoir un modèle parfait de lettre de rupture, hein, hein, eh bien, vous prenez la lettre 141 des liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos. Je vais vous la lire, cette lettre. Elle est envoyée par Valmont à la présidente de Tourvel, hein, et recevoir une lettre comme ça, je me demande ce qu'on peut y répondre, hein. On s'ennuie de tout, mon ange. C'est une loi de la nature. Ce n'est pas ma faute, vous voyez. Si donc je m'ennuie aujourd'hui d'une aventure qui m'a occupé entièrement depuis 4 mortels mois, ce n'est pas ma faute. Si par exemple j'ai eu juste autant d'amour que toi de vertu, et c'est sûrement beaucoup dire, il n'est pas étonnant que l'un ait fini en même temps que l'autre, ce n'est pas ma faute. Il suit de là que depuis quelque temps je t'ai trompé, mais aussi ton impitoyable tendresse m'y forçait en quelque sorte, ce n'est pas ma faute. Aujourd'hui, une femme que j'aime éperdument exige que je te sacrifie, ce n'est pas ma faute. Je sens bien que voilà une belle occasion de crier au parjure, mais si la nature n'a accordé aux hommes que la constance, tandis qu'elle donnait aux femmes l'obstination, ce n'est pas ma faute. Crois-moi, choisis un autre amant, comme j'ai fait une autre maîtresse. Ce conseil est bon, très bon. Si tu le trouves mauvais, ce n'est pas ma faute. Adieu, mon ange, je t'ai prise avec plaisir, je te quitte sans regret, je te reviendrai peut-être, ainsi va le monde, ce n'est pas ma faute. Que voulez-vous répondre à une lettre comme ça, hein? Vous recevez une lettre comme ça, bon, c'est une loi de la nature, dit Valmont, hein? On est au XVIIIe siècle, et très vite après, il y aura quoi? La grande révolution française, après les liaisons dangereuses. Donc, c'est l'écroulement de tout un système culturel. Au nom de quoi? Au nom de la fameuse nature. Voyez, c'est une loi de la nature. Vous savez, on veut que l'école soit rentable. Eh bien, si elle est rentable, apprenons aux gens comment rédiger une lettre de rupture. Hein, bon, prenez les liaisons dangereuses, etc. Une lettre d'amour, ce sera par exemple la lettre dans la nouvelle Louise de Rousseau, la dernière lettre de Julie à Saint-Preux. Mais donc voilà, on rentabiliserait l'école, hein, donc en montrant aux gens que on peut bien écrire. C'est un modèle de muflerie, hein, de cynisme, cette lettre, hein. Mais je me demande ce qu'on a à lui répondre, si vous voulez, hein. Ce qu'on peut répondre, hein. Ce n'est pas ma faute, ce n'est pas ma faute. Alors, Don Juan disait la même chose, hein, Et de, si on se place sur le point de vue de la nature, eh bien, ce point de vue nous montre une situation complètement amorale. Amorale. Dans la nature ignore la monogamie, la fixation unique sur un être, l'élection, en quelque sens que ce soit. Monogamie, je disais toujours à mes élèves que ça veut dire avoir une femme, mono. Alors, monotonie, vous voyez, monotonie, monogamie, etc. Voilà, donc, voilà. Moi, je pense que, même si cette lettre est un modèle de Mufflory, c'est un modèle de vérité, dans son ordre. Hein. Alors, tout à l'heure, bien sûr, je défendrai la culture, vous voyez, là, je parle de la nature. Hein. Tout à l'heure, je montrerai que la conception qu'on donne de la culture du sentiment amoureux est tout autre, et même opposée, vous voyez, hein. Mais là, alors, la nature est abstraite au sens où le partenaire ne se choisit pas, hein, finalement. Hein. Vous savez que Alceste, dans le Misanthrope, dit à Célimène que l'essentiel est un langage simple et naturel, et le langage précieux, ce n'est pas un langage naturel. Et ce n'est point ainsi que parle la nature, vous voyez. Mais est-ce que la nature parle? Non. La nature, elle pousse. Elle pousse. En latin, on dirait « urget natura hein ». Et par exemple, quand un libertin voulait obtenir les faveurs de sa belle, il disait Madame, la nature a parlé. Hein, la nature a parlé. Mais non, elle ne parle pas, elle pousse. Et de ce point de vue, c'est Célimène qui a raison du point de vue de la culture. C'est elle qui voudrait civiliser Alceste. Hein. Et alors, effectivement, c'est plus féminin de contextualiser l'amour. Hein. Les femmes sont plus du côté de la culture. Ce sont les femmes qui ont inventé la préciosité, qui ont inventé les cartes du tendre, c'est-à-dire les différentes nuances du sentiment amoureux. Elles ont inventé justement la politesse, les manières, hein, et la psychologie. Hein. La carte du tendre, c'est évidemment l'exploration d'un monde psychologique. Elles avaient raison, hein. Elles étaient du point de vue du côté de la culture. Et ce n'est pas parce que Molière, au siècle précédent, a critiqué les précieuses dans ses précieuses ridicules qu'il faut ridiculiser la préciosité. Non, la préciosité, c'est une tentative héroïque de civiliser le machisme, si vous voulez, des hommes. Hein. Malheureusement, Molière les a ridiculisés. Je pense qu'une femme, elle contextualise le sentiment. Je dis toujours qu'au Viagra, hein, les femmes préféreront toujours le coup de téléphone du lendemain, il me semble. Hein, il me semble. Donc, du point de vue masculin, c'est abstrait. Hein. Les femmes, dit Proust, sont les instruments interchangeables d'un plaisir toujours identique. Donc vous voyez là-dedans une grande, un grand mépris. Hein. Du point de vue féminin, c'est différent et je crois que c'est beaucoup plus culturel. Regardez la différence dans le flirt. Hein. Les hommes cherchent à conquérir hein, et les femmes cherchent à parler et à fantasmer, à y penser toute la semaine par exemple, vous voyez. Et Rousseau a dit une chose très belle là-dessus. Il a dit « Les sensations sont ce que le cœur les fait être ». Et ça, c'est une parole féminine ou féminoïde, si vous voulez. Hein. Donc, la sensation sans sentiment n'a pas d'intérêt. Hein. Alors que du point de vue de la nature, hein, bon, ce qui compte, c'est simplement la sensation. Alors, vous savez que au XVIIIe siècle, avant cet écroulement de la culture occidentale, bien sûr, après, elle rebondit, la culture, après la Révolution française, hein, eh bien, les moralistes ont dit, par exemple, comme Champfort, l'amour, c'est l'échange de deux fantaisies et le contact de deux épidermes. Vous voyez, ce n'est que l'échange de deux fantaisies et le contact de deux épidermes. Donc, finalement, dans cet ordre-là, de la nature, on s'éprend, puis on se méprend, et puis on se reprend, vous voyez. Hein. Je vois que Marie-Jo avait mis sur le site « L'amour fait passer le temps fait passer l'amour hein. ». Bon, ça c'est une phrase, si vous voulez, désinvolte. Désinvolte, hein. tout passe, tout lasse, tout casse, hein, voilà. Hein. Ou bien alors en désir, en soupir, en chavire, et puis en soutir, hein, vous voyez. Donc là on est dans le déterminisme naturel, hein, voilà. Hein. Donc Proust a parlé des intermittences du cœur. Hein, mon prochain livre, celui auquel je travaille, sera consacré aux sentiments amoureux. Il paraîtra au printemps chez Derville. J'ai appelé ça Méandre de l'amour. Eh bien, j'explorerai ce type d'amour-désir en montrant qu'il y a tout autre chose, hein, de possible. Mais c'est vrai que dans cet ordre-là, l'amour vient et puis nous quitte. Hein. Comme il n'est jamais en notre pouvoir d'aimer ou de cesser d'aimer, l'amant ne peut se plaindre à bon droit de la légèreté de sa maîtresse, ni celle-ci de l'inconstance de son amant. Je viens de vous citer La Rochefoucauld, vous voyez. Donc, dans cet ordre de la nature, eh bien, aucune fidélité n'est possible. Pourquoi ? Parce qu'à la base, dans la nature, il y a la biologie et la physiologie. Et c'est une part naturelle de notre destin. Dans l'amour, il y a le désir de perpétuer l'espèce, si vous voulez. Hein. Vous connaissez le vers de Phèdre de Racine, c'est Vénus tout entière à sa proie attachée, vous voyez, et Vénus, c'est une image pour dire la libido, hein, l'instinct génésique, l'instinct sexuel. Alors, quelque chose en nous de plus grand que nous se manifeste, hein, mais c'est quelque chose d'anonyme. Nous pensons peut-être choisir dans l'amour notre partenaire librement, mais en fait c'est une illusion. Nous croyons poursuivre des fins individuelles, des buts personnels, mais nous poursuivons que des fins génériques, c'est-à-dire la perpétuation de l'espèce. Il y a un livre là-dessus de Schopenhauer qui s'appelle « Métaphysique de l'amour », hein, où justement il nous montre ce côté ironique qu'il y a. Hein. Finalement, nous sommes manipulés par le génie de l'espèce. Lucrèce le disait déjà, hein, à propos de Vénus, « Tu fais en sorte que, poussés par le désir, les hommes perpétuent leur vie. » Vous voyez, ce n'est pas de nous qu'il est question, mais de la continuation de la vie. Finalement, ce n'est pas du corps, hein, le soma, comme on dit en grec, qu'il est question, mais du germen, c'est-à-dire la semence. Hein, voilà. Donc, nous aimons pour autre chose que nous-mêmes. L'être qui vit transmet la vie et puis meurt. Regardez, par exemple, moi j'aime beaucoup regarder les documentaires animaliers, sur Arte ou ailleurs, à la télé. Hein. Eh bien, c'est ça la vie des animaux, hein. Se nourrir, copuler et perpétuer l'espèce. Hein. Uniquement ça. Hein. Là, on est bien dans la nature, hein, vous voyez. Hein. Et une plante, par exemple, quand elle manque d'eau, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va, comme on dit, monter en graines, hein, pour justement se perpétuer, vous voyez, avant de mourir. Hein. Donc, voilà la nature. Hein. Je pourrais dire que, vous savez, on dit, quand on aime, on ne compte pas, pour dire, on ne regarde pas l'argent qu'on dépense. Mais prenez l'expression au sens fort. Quand on aime, on ne compte pas, c'est-à-dire en tant qu'individu, vous voyez, hein, en tant qu'individu, on n'est rien. Hein. Ce qui compte, c'est ce vouloir vivre générique. Hein. L'être va transmettre la vie, puis il mourra. Prenez la mer, les vagues passent, mais la mer ne passe pas. Hein. Finalement, la vie est immortelle d'un certain point de vue. Nous la transmettons, et comme des coureurs, nous passons le flambeau de la vie. Hein. C'est une citation de Lucrèce, je le dis en latin. Hein. « Et quasi cursores, vitae lampada tradunt. » Et comme des coureurs, il se passe le flambeau de la vie. Et alors peut-être que l'impression de tristesse, d'accouplement, qu'éprouve l'homme, hein, je dis l'homme, pas la femme, après l'amour physique, viendrait de là, c'est-à-dire un sentiment d'avoir été trompé, dupé par le génie de l'espèce. Vous savez, on dit omne animal post coitum triste, c'est-à-dire tout animal est triste après le coït. Hein. Bon, je pense que c'est beaucoup plus vrai de l'homme que de la femme, mais ça montrerait justement que nous ne sommes que des pantins, des marionnettes. Et voyez par exemple ce que dit Valérie dans Le cimetière marin, les cris aigus des filles chatouillées, les yeux, les dents, les paupières mouillées, le sein charmant qui joue avec le feu, le sang qui brille aux lèvres qui se rendent, les derniers dons, les doigts qui les défendent, tout va sous terre et rentre dans le jeu. Valéry, c'est un méditerranéen, on sent bien la sensualité, là, le sang qui brille aux lèvres qui se rendent. Hein. Donc on sent bien ce côté farouche qu'il y a dans les jeux de l'amour, mais s'achève par le mot « jeu ». Tout va sous terre et rentre dans le jeu. C'est un gigantesque jeu où la nature nous manipule comme des pantins et des marionnettes. Vous voyez, Lucrèce dit « Vénus dans les forêts, unissez les corps des amants. Hein. Et Venus in siluis, jungebat corpora amantum. » Vénus, c'est la pulsion libidinale, c'est ce que Freud appelle la libido. Et si, dans les forêts, forêt en latin se dit silua. Silua a donné le mot français sauvage, sauvage. Hein. Donc on voit bien là, on est toujours du côté de la nature et de la sauvagerie. Si vous lisez par exemple le livre 5 du De Natura Rerum de Lucrèce, vous y verrez une description extérieure de l'amour comme une activité sauvage qui ne nous donne, comment dire, et quelque chose de tantôt ridicule, totalement ironique et aussi tragique. C'est une vision extérieure qui n'est pas affectivement impliquée. Musset le dit très bien, je me souviens encore de ces spasmes terribles, de ces baisers muets, de ces muscles ardents, de cet être absorbé, blême et serrant des dents. S'ils ne sont pas divins, ces moments sont horribles. Vous voyez ? Donc on a ce côté sauvagerie. Bon. Alors maintenant, je vais passer à autre chose, parce que je sens que j'ai heurté beaucoup de sensibilité féminine, et je vais vous montrer que la culture propose autre chose que ça, hein, autre chose que ça, hein, autre chose que ce déterminisme naturel. Alors, ce que je vous ai décrit porte un nom grec, ça s'appelle Eros. Eros, c'est le dieu de l'amour, hein, mais l'amour au sens de désir, hein, au sens de désir. Hein. Et alors, les modalités d'Eros sont très diverses, ça peut aller de la pulsion sexuelle animale jusqu'aux sublimations de la passion amoureuse. Alors que la culture, elle, joue sur toute autre chose. Elle va jouer, non pas sur Eros, mais sur ce qu'en grec on appelle agapé, hein, A-G-A-P-E, accent grave, hein, agapé. C'est un autre mot qui veut dire aimer, mais veut dire tout autre chose que Eros. Hein. Agapé, c'est le mot que le Nouveau Testament emploie pour dire aimer. Jamais dans le Nouveau Testament chrétien, vous n'avez Eros, ça n'existe pas. Hein. Par exemple, aimez-vous les uns les autres, c'est agapaté, hein. Alors, aimez-vous. Bon, aimer. Aimer son prochain, c'est agapan. Hein. Bon. Donc, agapé, c'est l'amour de don, l'amour oblatif, alors que Eros, c'est l'amour captatif. Eros, c'est l'amour de concupiscence, hein, amor concupiscentiae, comme on dit en latin, tandis que agapé, c'est l'amour de bienveillance, amor benevolentiae, c'est un amour fait de dons, d'offrandes, et non pas de désirs de possession. Si vous voulez bien comprendre ça, je suppose que vous avez vu le film de Pagnol qui s'appelle « La femme du boulanger ». Vous l'avez sûrement vu, ça. Hein. Bon, ce film a été tiré d'une nouvelle de Giono qui s'appelle « Jean le Bleu hein. ». Et c'est une admirable allégorie de l'opposition entre la nature et la culture. La nature, c'est quand la boulangère voit son beau berger, hein, eh bien, elle s'en va avec lui, ils s'en vont, pour s'unir. Donc là, c'est toute sa sensualité qui parle. En plus, le berger, chante en italien, et les femmes comprennent toujours l'italien. Hein. Donc, comme le dit, c'est ce que dit Aimable, le boulanger, elle dit, je veux pas des gens qui parlent italien. Parce que, effectivement, c'est la langue de l'amour au sens de Eros. Hein. Bon. Alors, c'est une allégorie, justement, qui oppose à l'incendie de la chair, à l'incendie de la pulsion et de la passion adultère, la tendresse. La tendresse qui est conjugale, vous voyez. Hein. Vous le voyez dans l'admirable discours à la fin de ce que fait le boulanger. C'est pas pour rien qu'il s'appelle Aimable, d'ailleurs. Hein. Bon, Aimable Cassagnier. Donc, il fait un discours à propos de la tendresse. Et de la même façon, le berger, c'est un nomade, et à ce berger nomade s'opposent les villageois qui sont sédentaires. Vous voyez, ce sont deux mondes, hein, deux mondes bien distincts. Alors, que dit le boulanger à sa femme? Bien sûr, il lui dit, il y a la beauté, hein, la beauté, elle existe. Alors là, il y a des choses assez amusantes. C'est un naïf, ce boulanger. Qu'est-ce que ça veut dire, la beauté? Alors, des choses à la limite du racisme. Les Chinois sont tous pareils, etc. Vous voyez, des choses comme ça. Mais à l'époque, ça choquait pas. Hein. Pour lui, c'est pas très important. Et la tendresse, que fais-tu de la tendresse? Est-ce que c'est ton berger qui se serait réveillé la nuit pour voir si tu étais bien couverte? Est-ce que c'est ton berger qui t'aurait apporté ton petit déjeuner le matin, etc. La réponse, non. Hein. Et d'ailleurs, la boulangère, quand elle est complètement humiliée quand elle revient devant cette bonté. Hein, c'est très beau ce discours sur la tendresse. Hein. On n'est plus dans le monde de la passion, mais dans le monde de l'action. Et ce monde, c'est un monde substitutif qui n'est pas un pis-aller ou le deuil du précédent. Hein. Alors vous pourriez dire, oui, ce monde de la tendresse, c'est un monde qui, par définition, n'est pas passionnant, puisqu'il s'oppose à la passion, vous voyez. Il n'est pas passionnant. Mais en fait, par lui, les hommes se sont élevés au-dessus des déterminismes naturels. Oui, entrez. Installez-vous. Prenez place. Hein. Oui, je ne sais pas si vous connaissez la chanson de Brassens, Bonhomme. Vous connaissez cette chanson? Eh bien, on voit bien l'opposition d'Eros et Agapé. Bon, Bonhomme va mourir. Il va mourir, c'est un vieil homme, il va mourir de mort naturelle. Alors, le refrain, c'est d'une féroce ironie, hein, comme s'il y avait des morts naturelles. Car Bonhomme, il va mourir. Alors, de mort naturelle. Mélancolique, elle va à travers la forêt blême, où jadis elle rêva de celui qu'elle aime. Vous voyez la différence? Elle rêva, jadis, c'est la passion, hein, c'est Eros, de celui qu'elle aime maintenant. Vous voyez, hein. Donc il reste quand même une part de jalousie, hein. Ni cette autre et sombre voix montant du plus profond d'elle lui rappelait que parfois il fut infidèle. Donc il y a encore un reste de passion, de jalousie, hein. Mais quand même, qu'est-ce qu'elle fait? Elle choisit d'aller dans la forêt chercher du bois pour réchauffer les derniers instants de Bonhomme qui va mourir. Vous voyez, au lieu de se lamenter en disant « qu'est-ce que je vais devenir à présent toute seule », se lamenter sur elle, elle est dans l'action, hein, et dans l'oblation, hein, le don, l'offrande, si vous voulez. Hein. Donc, je ne dis pas que Agapé détruit et supprime Eros, c'est faux, hein, puisque je vous ai dit la dernière strophe, hein, où jadis elle rêva de celui qu'elle aime, mais Agapé dépasse Eros. La Fontaine a dit à peu près la même chose dans une fable qui s'appelle Philémon et Baucis, qui incarne les vieux amants. Hein. Eh bien, il dit, l'amitié modéra leur feu sans les détruire, et par des traits d'amour sut encore se produire. Donc, vous voyez, c'est très subtil, ça. Hein. Bon, donc, il y a eu la passion s'est atténuée, mais elle peut quand même, de temps en temps, renaître, hein, comme des braises sur lesquelles on souffle. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Agapé, ou en tant qu'amour de don, est quelque chose d'éminemment culturel. Hein. Et alors, prenez l'exemple de la fidélité. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la désinvolture de Valmont. Bon, on jette celle qu'on n'aime plus, etc. La fidélité, dans la nouvelle perspective, dans la perspective d'Agapé ou de la culture, hein, c'est pas le désir. Promettre fidélité à quelqu'un, ce n'est pas s'engager à ne désirer que lui ou elle. Pourquoi? Parce que le désir ne dépend pas de nous. Hein. Je peux très bien promettre fidélité à celle que j'aime et désirer la première fille que je vois dans la rue, vous voyez? Non, mais promettre fidélité, c'est s'engager à s'intéresser à quelqu'un. C'est pas dire qu'on ne désirera personne d'autre, hein, mais il faut situer la fidélité dans une perspective non pas de causalité, mais de finalité, c'est-à-dire de but. Hein. Promettre à quelqu'un de lui être fidèle, c'est lui promettre qu'on essaiera de le rendre heureux. Alors vous me direz, très souvent on ne tient pas sa promesse. Et c'est vrai, et c'est vrai. Mais qu'on ne tienne pas sa promesse, c'est une autre question. Au moins, a-t-on été capable de la faire, cette promesse? Et ainsi, le mariage monogamique, qui est effectivement une absurdité naturelle, hein, eh bien il s'éclaire de ce point de vue. On épouse quelqu'un, non pas parce qu'on l'aime, mais pour l'aimer. Vous comprenez la différence, hein? Ce n'est pas la causalité, mais c'est le but, la finalité. Hein? Et donc, de deux êtres qui s'engagent leur foi, comme on dit, c'est une vieille expression, mais qui est jolie, qui est belle, on peut dire qu'ils s'aiment non pas pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils deviendront l'un par l'autre, vous voyez, hein? Donc, vous connaissez tous la formule de Saint-Exupéry, aimer ce n'est pas se regarder l'un l'autre, mais regarder ensemble dans la même direction. Vous connaissez cette phrase, hein, on la cite toujours. Alors, regarder ensemble dans la même direction, ça ne veut pas dire regarder la télévision ensemble, hein, bon. C'est justement se proposer un but, hein, et parce que justement, si on regarde la télé ensemble, ça me plaît, hein, il me semble. Donc, c'est se proposer un but. Il faut prendre la chose au sens symbolique, hein, symbolique, pas au sens littéral. Et alors, on voit bien ça dans la liturgie du mariage. On le voit surtout en latin. Et hélas, maintenant, le latin a disparu, hein. Parce que le prêtre dit « Je vous unis en mariage ». Bon, en français, vous comprenez pas ce que ça veut dire, hein. Mais en latin, le prêtre dit « Ego coniungo vos in matrimonium ». Alors, « in matrimonium » est un accusatif. « Matrimonium » est un accusatif. Vous savez que le latin est une langue casuelle, hein, où chaque la fonction d'un mot est indiquée par son cas. Et alors, l'accusatif signifie toujours un but. Donc il faut traduire « je vous unis pour le mariage hein. ». Par exemple, je vais dans mon jardin, on dit « eo in hortum meum » avec accusatif. Mais « je suis dans mon jardin » se dira par un ablatif, vous voyez, « sum in horto meo ». Si c'était « je vous unis dans le mariage où vous vous trouvez », il y aurait « in matrimonium hein, », il y aurait un ablatif. Mais là, vous avez « matrimonium ». Vous comprenez un petit peu la différence, hein. Tandis que dans « je vous unis en mariage », on voit pas le sens. Donc, il faut faire du latin. Hein. Ça, c'est une langue magnifique, hein, c'est une langue magnifique, très précise, hein, parce que le lieu où l'on va n'est pas le lieu où l'on est, hein, tandis qu'en français, c'est la même chose. Hein. Je vais dans mon jardin et je suis dans mon jardin en m'aidant. Tandis qu'en latin, je vais dans mon jardin, vous avez in hortum, accusatif, et je suis dans le jardin, in horto, où je me promène dans mon jardin, in horto, ablatif, vous voyez. Donc, c'est très précis, très précis. Alors, je pense que je vous unis pour le mariage nous montre bien qu'on n'est pas dans le mariage au départ, on n'est pas dedans, hein, mais qu'il y a un projet, une perspective, et donc le sens du futur. Voilà. C'est pour ça que j'avais dit à Marie-Jo de bien indiquer sur le programme culture et sens du futur, le futur, la perspective, c'est-à-dire voir au-delà de l'instant présent, vous voyez, hein. Et là, on est dans l'espace de la culture, on est dans l'anticipation, hein. Le monde de la culture, c'est un monde du présent, hein. Le monde de la nature, pardon, c'est un monde du seul présent, du ici et maintenant, hein. Tandis que le monde de la culture, c'est un monde où il y a projet. Donc, qu'est-ce que c'est qu'aimer, au sens de agapé? Ben, tout simplement, c'est aider. Hein. Aimer, c'est aider. Il n'y a qu'une lettre qui change, hein, et c'est intéressant, d'ailleurs. Hein. Et d'un certain point de vue, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Hein. C'est une phrase de Cocteau, dans le film de Bresson, c'est les Dames du Bois de Boulogne. Hein. Donc, vous avez une magnifique illustration d'agapé dans la première épître aux Corinthiens de Paul, et que l'on, au chapitre 13, on cite toujours ce passage, on le cite souvent au mariage, hein, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien, etc. Vous voyez, donc, si je parlais toutes les langues des hommes, je ne suis qu'un airain qui retentit, etc. Hein, donc, c'est l'éloge d'agapé. Et Paul emploie toujours le mot agapé. Hein. Donc, j'ai dit agapé n'existe que. existe seulement dans le Nouveau Testament, mais il existe aussi évidemment dans les lettres de Paul qui sont antérieures justement à la rédaction des évangiles. Donc agapé, c'est ça, hein. Et le livre de référence là-dessus, c'est le livre de Denis de Rougemont qui s'appelle L'amour et l'Occident, hein, qui est édité, qu'on trouve en poche, hein, où il oppose constamment Eros et agapé, hein. Agapé est oblatif. Qu'est-ce que ça veut dire oblatif? On offre, hein, on offre. J'aime assez mon amant pour renoncer à lui, dit Athalide dans Bajazé de Racine, vous voyez. C'est un amour d'offrande. Vous connaissez l'épisode dans la Bible de deux femmes qui se disputent un enfant, et ensuite le roi Salomon qui dit qu'on m'apporte une grande épée, je vais partager cette enfant en deux, et je vais en donner la moitié à chacune. Et aussitôt une dit non, qu'il vive, qu'il soit à l'autre. Et ensuite Salomon dit non, mais le fameux jugement de Salomon, donc il est à toi, c'est toi sa mère. Donc le vrai amour est c'est ça, oblatif. Oblatif vient du latin, hein, obferre, oblatum, hein. Oblatif, ça veut dire qui donne, voilà, hein, qui donne. C'est un amour fait d'offrande, si vous voulez, hein. Donc cette femme préfère que l'enfant soit à une autre, mais qu'il soit vivant, plutôt que s'il était, plutôt que d'en avoir la moitié d'un enfant mort, hein. Bon, il y a d'autres, il y a plein de films qui illustrent Agapé, par exemple Trois couleurs bleues de Kieslowski, je sais pas si vous l'avez vu. Avec Juliette Binoche, donc et les films aussi de Brève histoire d'amour du même Kieslowski. Vous n'avez pas vu Brève histoire d'amour? C'est un commentaire de Décalogue 6. Le Décalogue 6, c'est Tu ne seras pas luxurieux, hein. Donc c'est un cinéaste polonais qui est mort maintenant, mais qui justement a voulu illustrer les 10 commandements au moyen de petites fictions d'une heure, hein. Et il nous montre que si l'on est luxurieux, on n'est pas un être humain. Donc au lieu de dire tu ne seras pas luxurieux, c'est-à-dire c'est une défense que je te fais, c'est le meilleur moyen de rendre quelqu'un justement luxurieux, de lui dire ne le sois pas. Il faut lui montrer que si l'on est luxurieux, on n'est pas, c'est-à-dire un être humain. Luxurieux, tu ne seras pas un être humain. Et c'est ce qu'on voit bien dans le film de Kieslowski, vous voyez. Il s'agit d'une femme qui se moque d'un jeune homme en méprisant l'amour que c'est le premier amour de ce jeune homme. Ce jeune homme se taille les veines, veut se suicider. Après, l'autre qui se rend compte du mal qu'elle a fait se repent. Et ça montre bien que l'on ne peut pas s'amuser comme ça avec les sentiments. Vous l'avez pas vu ça, ça s'appelle Brève histoire d'amour. C'est un commentaire du sixième commandement. Donc vous voyez il ne faut pas faire l'éloge de la nature, hein. La nature, bon, aujourd'hui c'est à la mode de dire, par exemple, pour vanter un produit, on dit il est naturel, manger naturel. On fait l'éloge de la belle nature, mais non, même en esthétique, la nature n'est pas belle. Prenez une prairie qui serait parsemée de fleurs, hein, eh bien, il y a une profusion végétale qui fait qu'il n'y a pas de choix. Tandis que quand vous composez un bouquet, alors vous choisissez, vous voyez, hein, ou quand vous peignez, etc. Donc, le retour à la nature me semble quelque chose d'assez problématique. La nature ne choisit rien, hein. La nature n'interdit ni le cannibalisme, ni l'inceste, ni la zoophilie, etc. Hein. Baudelaire a écrit un éloge du maquillage dans ses curiosités esthétiques, où il critique violemment la nature au nom de l'art, hein, l'art, l'artifice. Hein. Le maquillage, une femme qui se maquille, arrache sa figure au naturel imparfait pour l'élever jusqu'au stade presque de la prêtresse. Hein. Elle se dore pour être adorée, dit Baudelaire. Donc, je trouve que le maquillage, au lieu de le critiquer au sens de non naturel, il faut le mettre très haut au sens de quelque chose, d'une production éminemment culturelle. La femme préhistorique, je ne sais pas si elle était vraiment très si attirante que ça, vous voyez. Donc, je pense que cet éloge de la nature oublie que tout l'effort de la culture a été de réformer la nature, hein, a toujours été de tant du point de vue esthétique que du point de vue éthique, hein. La zoophilie, par exemple, elle est proscrite par la Bible. Hein, la Bible instaure des séparations absolues entre les règnes, règne animal, règne végétal, etc. Et donc le Lévitique, qui est un livre de la Bible, condamne tout à fait justement la zoophilie. Alors, c'est vrai. Alors, que va faire la culture ? Comme elle va essayer de biaiser avec ça. Elle va transférer la zoophilie dans des métaphores poétiques. Par exemple, dans ce qu'on appelle les hypocoristiques. C'est un mot un peu difficile qui veut dire les diminutifs d'affection. Quand je dis mon petit loup, mon gros canard, vous voyez, à quelqu'un, etc., ou ma biche, etc., je fais des hypocoristiques, et donc, parfois, si vous voulez, on assiste à toute une ménagerie dans les conversations amoureuses. Hein. Je veux dire, c'est beaucoup plus astucieux de ruser avec la nature, hein, en métaphorisant certaines choses, hein, que de les nier, parce que c'est vrai que il y a des cultures qui ont des divinités zoomorphes, hein, par exemple l'Inde, hein, vous avez un dieu à tête d'éléphant, vous voyez, zoomorphe, ça veut dire qu'il y a forme d'animal, hein. Alors tantôt c'est le corps, tantôt c'est la tête qui est animal, etc. Bon, certaines cultures l'ont, mais pas la nôtre, parce que la Bible justement interdit cela. Voilà. Alors maintenant, je vais, comme dernier point, développer le sens du futur. Est-ce que jusqu'à présent, vous avez bien suivi ? Vous savez, moi j'essaie de traiter de plein de choses à la fois. Vous avez remarqué, je parle d'esthétique, je parle d'éthique, etc. Et je pense que tout se tient. Hein. Donc parfois, ça peut... Comment dire, vous semblez un peu confus parce que vous voyez pas le lien entre tel et tel domaine. Hein. Mais en fait, tout se tient. Tout se tient et sinon, si on se tient simplement à un petit domaine, comme on le fait parfois, souvent à la fac, eh bien, c'est pas une bonne chose. Hein. Il faut savoir comment on fait au tennis, savoir monter au filet. Hein. Si vous restez au fond du cours, être des remouleurs de lift au fond du cours, ça sert à rien. Par contre, si vous montez au filet, vous pouvez vous faire passer, bien sûr, avec une objection, mais il faut quand même essayer d'avoir plus de hardiesse. Alors, la nature ne nous invite nullement à différer pour le demain, quelque chose, une satisfaction immédiate. Supposez qu'il fasse beau, eh bien, je vais vous dire, j'ai envie d'aller me promener. Bon, il fait soleil, je vais me promener. Hein. Mais si je reste chez moi parce que j'ai à travailler, soit pour passer un examen, etc., alors je change de domaine. J'abandonne le monde pulsionnel, hein, pour entrer dans le domaine du bénéfice escompté pour le futur, dans le domaine de l'anticipation. Hein. C'est pour ça que je parle du sens du futur. Hein. C'est-à-dire que je sacrifie un bien présent au bénéfice de quelque chose qui est certainement hypothétique, mais que je vais préférer et que je vais escompter pour l'avenir. Et ainsi, la prévision et la prévoyance vont donner à ma conduite une finalité qui échappera au déterminisme et aux causalités qui sont des choses seulement naturelles. Donc, je passe du monde du désir au monde de la volonté, hein, comme disent les philosophes. Hein. Donc, vouloir vraiment, c'est vouloir ce qu'on ne veut pas, dit-on, c'est-à-dire savoir dire non à son désir. Donc, l'homme est une différence qui diffère dans le temps la satisfaction de ses désirs. Donc, je dirais, c'est une différence avec un E, différente avec un A. Hein, c'est-à-dire qui diffère, hein, qui est capable de différer, hein, qui est capable de différer au bénéfice d'autre chose. Donc, si je dis demain je ferai cela, hein, je ne suis plus dans la sphère de la nature, je suis dans la sphère de la culture. Paul Valéry disait toute civilisation est perspective, hein, et donc perspective, ça veut dire qu'il regarde devant soi. Hein. Et finalement, le futur, même considéré comme un temps grammatical, définit toute la culture. Hein. La culture, c'est ça. Hein. Il me semble, c'est le sens du fond. Et finalement, aujourd'hui, c'est en train de se perdre. Vous me direz ce que vous en pensez quand on va discuter. Beaucoup de jeunes ne vivent que dans le présent. Hein. Il faudra discuter de ça. Hein. Dans la satisfaction immédiate de la pulsion. Hein. Et ils n'ont pas ce sens du futur ou de perspective. Et donc, de ce point de vue, on pourrait parler de déculturation. Si la culture est sens du futur, hein, est sens du sacrifice. Attention, pas le sacrifice pour le sacrifice, hein, mais c'est une frustration acceptée, volontairement consentie, au bénéfice d'une représentation du lendemain. Vous voyez ? Donc je sors pas, j'ai mon examen à passer. Peut-être que j'échouerai, d'accord, mais au moins je décide de je pense à autre chose que à l'instant. Hein. Et ça se perd peut-être aujourd'hui. Peut-être que nous sommes aujourd'hui dans l'immédiateté pulsionnelle. Hein. Et alors, j'insisterai aussi ici sur le langage. Alors, le langage, hein, c'est ce qui, en nous, relaie les pulsions et les remplace. Hein. On peut dire que toute la culture est basée sur la verbalisation, par opposition à la domination des actes réflexes où nous pousse la nature. Hein. Ce n'est pas la même chose, par exemple, de faire l'amour sans parler et de le faire en se parlant. Hein. Ce n'est pas la même chose, parce que quand on parle, eh bien, cela permet des représentations. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, représentation ? Ça veut dire la venue en moi de choses absentes, hein, des attentes, des perspectives, vous voyez, hein. Donc, et ces représentations vont autoriser non pas le « parce que » de la nature, mais le « pour que » de la culture. Vous comprenez un peu le... Et ça, il n'y a que le langage qui le permet. Je parlais de la promesse tout à l'heure, hein, la promesse, l'engagement de fidélité. Bon, prenez par exemple une déclaration d'amour, elle nous engage beaucoup plus qu'un geste d'amour. Hein. Un geste peut-être simplement instinctif ou réflexe, hein, mais dire à quelqu'un « je t'aime », hein, c'est autre chose que de lui prendre simplement la main. Alors, bien entendu, vous pourrez faire des objections. Le langage peut être aussi falsifié, c'est sûr. Vous pourrez dire aussi qu'il y a une immédiateté non hypocrite du geste. Peut-être, on verra dans la discussion. Mais personnellement, je ne sais pas parce que je suis professeur de lettres de formation, je trouve que rien ne remplace le langage. Hein. Caresser quelqu'un, c'est bien beau, mais d'abord, est-ce qu'on caresse ou bien est-ce qu'on se caresse à hein. Bon, quand vous dites « mon chat me caresse », mais non, votre chat, il se caresse à vous, vous voyez. Hein. Donc, c'est tout à fait différent. Hein. C'est tout à fait différent. Donc, Montaigne disait « quand je joue avec ma chatte, est-ce moi qui joue ou elle qui joue avec moi ?» Vous voyez hein. Donc, finalement, c'est très important la caresse, mais je trouve que le langage a un poids, alors, en philo, on appelle ça ontologique, un poids ontologique. C'est un mot bien savant, hein, ontologique, c'est-à-dire qu'il y a une pesanteur, une réalité, qui a rapport à une réalité, hein. Les simples gestes n'ont pas ce poids-là. Hein. Ce que l'on dit est plus important. Par exemple, quand Phèdre avoue à Œnone qu'elle aime Hippolyte, dans la pièce de Racine, eh bien, dès lors qu'elle a fait l'aveu, alors elle est coupable. « Quand tu sauras mon crime et le sort qui m'accable, je n'en mourrai pas moins, j'en mourrai plus coupable. » Vous voyez hein. Donc, avouer, là, dire... Hein, hein, c'est effectivement plus important. Et dans la Chartreuse de Parme, le comte Mosca dit à propos de la duchesse Sanseverina et Fabrice, « Si le mot amour vient à surgir entre eux, je suis perdu. » C'est-à-dire qu'ils ne savent pas qu'ils s'aiment tant qu'ils ne sont pas dits. Hein. C'est par le langage, justement, que l'homme échappe au présent et entre dans la perspective du futur. Qu'est-ce que ça veut dire « parler » au sens fort, hein. Parler, c'est évoquer, c'est faire venir, evo carré en latin, faire venir, hein. Faire venir les choses. Quelle est la présence la plus haute? Est-ce que c'est la, alors là, je vais peut-être vous paraître idéaliste, c'est peut-être difficile à suivre. Mais Quelle est la présence la plus haute? Est-ce que c'est la présence de ce que l'on voit dans la perception ou la présence de ce que l'on évoque, c'est-à-dire ce qu'on appelle à venir dans le langage? Par exemple, si je dis « la neige tombe, la cloche sonne dans le silence du soir ». Bon, je ne vois pas tomber la neige, je n'entends pas sonner la cloche. Mais la neige qui tombe et la cloche qui sonne sont quand même en moi. Ils sont appelés dans le langage, si vous voulez. Il y a une présence en moi de choses absentes. C'est peut-être difficile ça, à sentir. Mais je pense que ça a plus de poids, si vous voulez, que la simple perception. De même qu'un tableau, justement, d'un paysage, nous donne du paysage une vision beaucoup plus probante, hein, beaucoup plus réelle, dans le fond, hein, que le paysage lui-même, au point qu'Oscar Wilde disait que la nature imitait l'art. Hein, bon, il est certain qu'on ne voit plus les oliviers de la même façon depuis que Cézanne ou Van Gogh les ont peints, hein, ou les cyprès de Van Gogh, vous voyez. Donc, il y a... de la même façon, dans le langage, surtout dans le langage poétique, hein, je ne parle pas du langage utilitaire, référentiel, du genre « passe-moi le sel », etc. Ça, c'est du langage désignatif qui n'est pas important. Mais dans le poème, si vous voulez, il y a, si je dis « la neige tombe, la cloche sonne », et si le poème est bien fait, bon, là, c'est un poème dont parle Heidegger dans « Acheminement vers la parole », eh bien, on sent bien que neige et cloche, finalement, sont plus importants quand ils sont dits, quand ils sont évoqués, quand ils sont appelés à être dans le langage, que quand ils sont vus. Vous voyez? Je vais vous dire un beau poème de Paul Valéry, qui s'appelle « Les pas ». « Tes pas, enfant de mon silence, saintement, lentement placés vers le lit de ma vigilance, procèdent muets et glacés, personne pure, ombre divine, qu'ils sont doux, tes pas retenus, Dieu, tous les dons que je devine viennent à moi sur ses pieds nus. Si de tes lèvres avancées tu prépares pour l'apaiser à l'habitant de mes pensées la nourriture d'un baiser, ne hâte pas cet acte tendre, douceur d'être et de n'être pas, car j'ai vécu de vous attendre et mon cœur n'était que vos pas. » Vous voyez, hein, c'est un magnifique poème qui dit exactement ce qu'est la culture. Hein, cette anticipation, cette attente des choses dans le langage. Quand on entend des bruits de pas, hein, quand procède, ça veut dire s'avance, procède muet et classé, eh bien, finalement, surtout, il ne faut pas hâter les choses. Hein, il faut savoir attendre, vous voyez. Et c'est ça la culture. Savoir attendre, hein, refuser l'immédiateté pulsionnelle, hein, au bénéfice de l'attente, de l'imaginaire, etc. Et finalement, cette attente qui se perd aujourd'hui beaucoup, hein, qui se perd, c'est quelque chose qui nous donne, comment dire, qui tient lieu de réel, mais qui permet, je le répète, la présence des choses absentes. L'épigraphe de mon premier chapitre, définition, c'est une phrase de Paul Valéry, « Que serions-nous sans le secours de ce qui n'existe pas ?» Bon, petite lettre sur les mythes de Paul Valéry. Alors là, déjà, on ne comprend pas, hein. Bon, « Que serions-nous sans le secours de ce qui n'existe pas ?» Mais si vous comprenez que entendre des pas, et surtout, ne te presse pas, etc. Vous voyez, Dieu, tous les dons que je devine viennent à moi sur ses pieds nus. Devinez, vous voyez, c'est beaucoup plus important que voir. Hein. L'endroit le plus érotique d'un corps, c'est celui où le vêtement bâille, si vous voulez. Hein. C'est ce qu'on devine. Le véritable amateur d'érotisme a horreur du nudisme ou du naturisme. Hein. Il faut suggérer, deviner. Hein. Et c'est ça l'important. Hein. C'est pour ça qu'un texte réussi, c'est un peu comme une jupe fendue, si vous voulez, où on devine les choses. Hein. Il faut deviner. Et la culture permet ça. Hein. Par l'intermédiaire du langage, parce qu'elle remplace la pulsion par les mots, voyez, par les mots. Et le langage, c'est un relais, Il y a une lieutenance du langage, c'est-à-dire il tient lieu des choses, vous voyez. Si on accorde crédit à ce langage, si on lui fait foi, si il y a pour ce langage une fiducia, fiducia c'est un mot latin qui veut dire foi, crédit, donné, à ce moment-là, la culture, c'est la victoire du non-existant sur de l'existant. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Alors, ça fait beaucoup de choses tout ça, hein. Mais je trouve que j'aime beaucoup Paul Valéry, hein. Et ce poème dit l'essentiel. L'essentiel se fait d'attente, se fait de représentation mentale, de représentation, hein. Et pour cela, les mots me semblent essentiels. Hein. De toute façon, le langage est un comment dire vient en moi. Alors, il y a différentes façons de parler. Bon, quand vous parlez ordinairement, ça compte pas. C'est comme une pièce de monnaie qui passe de main en main. Elle s'encrasse, elle devient toute sale, etc. Ça, bon, c'est pas. Mais dans le vrai langage, dans la poésie, par exemple, hein, eh bien, ce n'est pas référentiel. Ça suscite, ça fait venir, ça évoque des choses. Hein. Et ou au carré, ça fait naître des représentations qui ont plus de poids ontologique que le réel. Et je pourrais dire que le langage me précède en quelque sorte, et que la parole en moi est parlante, et la parole va modeler et façonner ma vie. Hein. Donc je peux dire que je n'existe vraiment que figuré dans un discours, un langage qui me représente. Et dans ce langage, je mettrai aussi les images, si vous voulez. La norme, dans le monde de la culture, c'est de se reconnaître dans une représentation de soi qui nous préexiste. Alors là, je vous ai amené un de mes livres, où j'ai fait, parce que je suis aussi photographe, où j'ai voulu montrer ça. Vous voyez, il s'agit d'un visage féminin, dont il y a un reflet dans un miroir, hein. Le reflet dans un miroir. C'est un miroir grossissant dont on se sert pour se maquiller, etc. Vous voyez, la mise au point, je l'ai faite sur l'image reflétée, ce qui fait que le visage est flou, si vous voulez. Eh bien, c'est nous dans la vie. Dans la vie, nous sommes flous. Nos vies s'effilochent. Elles n'ont pas, de sens. C'est comme une patte longue qui s'allonge. Sartre le montre bien dans la nausée. Hein. C'est une patte informe. Mais dans l'œuvre, hein, nous sommes nets, hein, et vivants, vraiment, comme dans ce miroir. Alors j'appelle ça les miroirs instituants. Hein. Nous ne prenons vie que si nous nous reflétons dans un miroir instituant. Ces miroirs, ce sont les œuvres que nous avons lues, hein, les chansons que nous avons entendues, les films que nous avons vus, vous voyez. Tout ça nous modèle, hein, et nous donne vie. Hein. Sans les romans, comment pourrait-on s'y prendre pour faire sa cour à une femme? Je vous pose la question. Hein. Bon, est-ce que l'homme préhistorique, comment il faisait sa cour? Voilà. Hein. Donc, mais c'est parce que nous avons vu des films, parce que nous avons entendu des chansons, parce que nous avons lu des livres, hein, parce que, etc., nous avons vu des tableaux, que finalement notre vie peut se modeler justement sur ces miroirs instituants. Et sans ces miroirs, nous sommes des morts vivants. Vous savez que le propre du vampire, hein, qui est un mort vivant, hein, c'est qu'il ne se reflète dans aucun miroir. Il n'a pas de reflet, le vampire. Hein. Et quand quelqu'un meurt, on voile les miroirs dans la pièce, hein, sur l'armoire, etc. Hein. Donc c'est, tout ça doit nous faire réfléchir. Hein. Donc moi, je suis persuadé que si nous n'avons pas ces miroirs, nous ne sommes pas en vie. Hein. Alors, ça peut être des chansons. Bon, il y a des films là-dessus. Par exemple, le film de René, on connaît la chanson. Hein. Le film de Woody Allen, tout le monde dit « I love you hein. ». Je sais pas, vous avez vu peut-être ces films. Le film de François Ozon, « Huit femmes hein. ». Ou le film de Christophe Honoré, « Les chansons d'amour hein. ». Bon, donc, dans ces films, de temps en temps, ça s'arrête, l'histoire, et puis il y a une chanson. Si vous voulez, hein. Eh bien, cela acquiert du poids, si vous voulez. Notre vie devient lestée grâce à ces systèmes de représentation, voyez, hein. Vous avez pas vu le film de René, on connaît la chanson, non? De temps en temps, par exemple, Sabine Azéma va chanter « Résiste, prouve que tu existes », etc. Vous voyez, bon, chacun y va de sa petite chanson. Hein. Eh ben, ces chansons nous modèlent. Hein. Alors, loin de dire que nous sommes des hypocrites ou des acteurs en jouant ainsi, je dis nous prenons vie, justement, de ces rôles que nous incarnons. Et quand je dis « la parole est parlante en moi », je veux dire que quand je parle... Bien sûr, c'est moi qui parle, mais en moi parle une parole plus importante que moi-même. Vous comprenez? C'est comme une espèce de Pentecôte, hein, laïque, hein. L'Esprit est descendu sur les apôtres, la Pentecôte, hein. Et bien, finalement, les mots me visitent. Mais quand je parle vraiment, pas quand on parle comme ça, hein, les mots sont les passants mystérieux de l'âme, disait Victor Hugo, vous voyez, hein. Donc, ils prennent vie de moi qui les profère, hein, mais ils sont plus importants que moi, en quelque sorte, hein, et ils me donnent une forme, en quelque sorte, voyez. Voilà, donc moi je ne suis pas croyant du tout du point de vue religieux, et pourtant j'ai une mystique du langage, hein. Je pense que la parole parle en moi quand j'écris vraiment, quoi, hein. Bon, on dit bien l'idée d'inspiration, c'est bien ça, hein, l'idée de quelque chose qui descend, hein, comme l'esprit en langue de feu sur les apôtres lors de la Pentecôte, vous voyez. Et quand il y a déclin du langage... Alors, quand il y a déclin de ces mythes instituants, parce que ce sont des mythes, tout cela, hein, mais ce ne sont pas des mythes mystificateurs, ce sont des mythes instituants, si vous voulez. Hein. Par exemple, chez Dante, Paolo et Francesca ont l'idée de s'embrasser en lisant le récit d'un baiser, chez Chrétien de Troyes. Il me baisa la bouche tout tremblant, etc. Hein. Bon, sinon, si on n'avait pas vu des baisers au cinéma ou comme ça, bon, qu'est-ce qu'on ferait, hein. C'est quelque chose que l'on a déjà vu. Imaginez un enfant qui ne connaît pas, il voit deux personnes s'embrasser, il dit, tiens, il va lui piquer son chewing-gum, etc. Vous voyez, donc, ce regard naïf, bon. Donc, il y a bien en nous cette présence de ces grands mythes. Et donc, lorsque le langage est en crise, comme aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu La Haine de Kassovitz. Vous avez vu La Haine, hein? Alors là, c'est terrifiant, parce qu'on voit bien ce qu'est la fin d'une culture, d'une civilisation, hein. Pour l'instant, je ne fais pas de différence, j'en ferai après, mais pas aujourd'hui. Donc, les trois paumés, là, les trois zonards, ils comprennent pas. Il y a la scène dans les toilettes où un vieux monsieur leur raconte une histoire tirée de sa captivité. Et puis, ils sont tellement paumés qu'ils disent « Mais qu'est-ce qu'il a voulu nous dire ?» Ils sont incapables de suivre d'avoir un discours suivi, si vous voulez. Hein. Donc, quand on en est à ce niveau-là, hein, quand le langage est en crise... Alors la culture est en voie de décomposition. Hein. Moi, je pense que puisque c'est le langage qui la soutient, la culture. C'est le langage qui permet de justement son soubassement. Et donc, quand il y a crise de la représentation, je prends représentation dans tous les sens du mot. Hein. Représentation mentale, représentation aussi. Je le prends, figurez-vous, aussi dans le sens politique. Quand vous avez crise de représentation parlementaire, par exemple, eh bien, vous avez l'appel aux tripes des partis extrémistes, hein, l'anti-parlementarisme, vous voyez, l'appel aux pulsions élémentaires du peuple qu'on voit dans tous les fascismes ou dans tous les totalitarismes, vous voyez. Hein. Donc, je prends le mot représentation dans un sens très, 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 très large. Voilà. Alors, écoutez, maintenant, je vais m'arrêter de parler et on va dialoguer, hein, si vous voulez. J'ai dit beaucoup de choses, hein, mais bon, on va maintenant mettre certaines choses au point. Et puis vous pouvez poser vos questions et me porter la contradiction.